Le SIBCA, le salon de l'immobilier bas carbone, du 20 au 22 septembre 2023, au Grand Palais éphémère à Paris, sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bonjour à toutes et à tous, et voilà, je reviens sur le plateau, je prends la succession de Bérénice, il est 12h passé, et nous sommes toujours au SIBCA, première journée, une journée marquée par l'intérêt des industriels et des partenaires du SIBCA sur la nécessité de la transformation environnementale, avec toujours cette dent creuse, comme certains voudraient l'appeler, qui est celle de la transformation énergétique des bâtiments. Quand on le sait, que 80% de la ville qui existe aujourd'hui sera la même dans 50 ans. C'est-à-dire que 80% de ce que nous avons, de ce qui nous entoure, restera aux alentours de 2050. Donc on n'a pas le choix, il faut transformer. On va parler justement de ces enjeux de biodiversité, de fabrique de la ville et d'environnement avec la directrice générale d'Élan, c'est la filiale immobilier responsable de Bouygues Bâtiments France, c'est Sylvie Gamelin. Bonjour Sylvie.
Bonjour Sylvain.
Alors je suis positivement ravi de vous recevoir sur le plateau parce que vous êtes experte en la matière. Alors, question générale, on va aller un peu du général au particulier. On est sur une feuille de route avec un calendrier contraint. On le sait, la loi climat et résilience a fixé un cadre. Sur le bâti, c'est les étiquettes énergétiques, sur les 7 lettres énergétiques, retrait à minima 2034 de 3 lettres énergétiques, EFG. Ensuite, alors évidemment, la tendance est d'aller sur les 3 premières lettres énergétiques, donc coût énergétique, aspect économique, meilleur confort dans l'habitat, et amélioration de la santé publique, puisque on rappelle pas assez que l'amélioration de l'environnement, de l'air intérieur et de l'énergie, c'est aussi l'amélioration de la santé à l'intérieur de l'habitat. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais aussi souvent rappeler. Je le fais à chaque fois et je voudrais qu'on en parle. Si on devait, comme ça, Sylvie, dresser un bilan, une photographie à l'instant T, malgré les tensions qui pèsent sur l'industrie immobilière, je vais pas revenir dans la morosité, mais on affiche des chiffres. Historiquement très bas.
Tout à fait.
Et les majors ne sont pas épargnés, hein. Les petits, les moyens, les gros promoteurs. On est sur des baisses de quand même 40%, hein. C'est pas neutre, hein, du tout. C'est un choc structurel, très fort, très puissant, inédit, mais aussi un choc conjoncturel. 350 points de base d'augmentation des taux d'intérêt. Une chute de plus de 45% des frais de dossier pour la primo-accession, par exemple. Bref, c'est une bérésina. Une compression de l'offre de logement dans l'ancien. Qui est en train de se réduire comme peau de chagrin. Là où il y avait 10 annonces, aujourd'hui, il n'y en a plus que 2. En moyenne, 231 dossiers pour une annonce locative. 12% des étudiants renoncent à leur projet. Ouais, 12%. Ils n'iront pas à l'école, hein, parce qu'ils ne trouvent pas de logement. On a des jeunes actifs qui signeront pas leur contrat. Ils sont 17%. Et pourtant, il faut se transformer. Il faut aller vers du développement durable. Je parlais avec Bernard Mounier tout à l'heure dans la keynote dans lequel disait, ben, ça ne s'oppose pas, au contraire, ça se rejoint. Il faut mener de front. Voilà. Dites-nous un petit peu, quelle est votre analyse? Ce n'est pas une question, c'est plutôt un échange.
Oui, tout à fait. Ben, je vous rejoins sur l'ensemble des constats. D'abord, il faut rappeler une chose primordiale. Le logement, c'est un besoin essentiel. On en discutait un peu avant cette interview. Le logement est un droit universel. Et aujourd'hui, effectivement, ce droit est mis à mal par le contexte économique et effectivement par la difficulté qu'ont l'ensemble des acteurs aujourd'hui à pouvoir sortir ces programmes. Et pour autant, vous le disiez à l'instant, c'est pas parce qu'on est dans cette période de difficulté qu'on doit soit renoncer, soit être moins ambitieux sur les politiques environnementales associées à ce secteur du bâtiment. Le secteur du bâtiment aujourd'hui, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre en France. C'est notre devoir, notre responsabilité de dirigeant d'entreprise, notre responsabilité au niveau des promoteurs, des investisseurs, d'allier cette ambition environnementale très forte et cette volonté de poursuivre malgré le contexte économique, de continuer à se développer, de continuer à sortir les projets, parce qu'encore une fois, tout simplement, c'est un besoin vital et il faut y répondre. Et effectivement, le confort, la santé, le bien-être à l'intérieur des logements, ça fait partie intégrante de ce droit au logement. Et aujourd'hui, il n'est pas normal qu'on ait encore autant de logements si dégradés et qu'il soit si compliqué pour un certain nombre de Français de se chauffer. Et donc demain...
Compliqué parce qu'ils n'ont pas les moyens, c'est
mais
vous
bien
le savez.
Sûr.
Hein.
Mais
on est d'accord. Ils voudraient, hein. Tout le monde voudrait le faire. Quand j'ai comment on appelle ça, le conteneur de fioul qui est enterré, moi je veux bien en changer. mais ça me coûte un bras. Et que ma prime rénov' ne va pas résoudre toutes les problématiques. Parce que, comme vous le savez, il y a des restes à charge qui sont significatifs. Mais on fait comment ? Justement, cette équation-là qui est difficile à résoudre, on fait quoi ? Comment on accompagne, justement ?
Ouais.
Parce que la prise de conscience, on est d'accord, on l'a tous eu. Hein.
Tout à fait. La question est hyper vaste. Et bien évidemment, à notre niveau, en tant que société de conseil, on n'a absolument pas toutes les cartes en main. Néanmoins, ce que l'on voit, c'est que l'on voit une vraie volonté des acteurs de poursuivre les efforts, malgré les difficultés économiques. Et donc, on a une espèce de dissonance cognitive entre, d'un côté, le bilan de l'opération qui a du mal. Le bilan de l'opération qui a du mal à tourner, et en même temps, une volonté d'y aller parce que la prise de conscience est faite. Globalement, aujourd'hui, même s'il y a toujours des détracteurs et que l'on voit encore parfois des trucs lunaires sur remettre en cause les conclusions du GIEC, néanmoins, globalement, toute la profession est là et s'y reconnaît. Et c'est bien aujourd'hui, finalement, en étant ici au CIPCA, qu'on s'en aperçoit. C'est une preuve évidente de cet intérêt de la profession. Et donc, on voit cette volonté commune d'y aller, de chercher des solutions, de faire en sorte de réduire nos émissions, mais pas que, de réduire cette facture énergétique. Et tout ça, à la fin, n'a qu'une seule finalité. Bien évidemment qu'on est là pour préserver notre planète, mais cette finalité, elle est avant tout pour l'usager, parce qu'il ne faut pas oublier que dans un logement, il y a quelqu'un qui y vit, et ça, c'est un prérequis indispensable à toute réflexion. Donc j'allais dire que moi, c'est le premier point positif que je vois, c'est que cette conscience, elle est là, cette envie, elle est là. Ce souhait aussi de prendre en considération, et ce qui n'était pas le cas, je pense, il y a quelques années, finalement, l'usage du logement, parce que finalement la crise pousse aussi à se réinventer sur quels doivent être les usages. Le Covid a aussi montré à la fois des aberrations sur le taux d'occupation des immeubles tertiaires, par exemple, où on a un taux d'occupation qui est relativement faible, et puis en même temps des initiatives de solidarité.
On a aussi
inouïe.
Des habitants qui ont fait connaissance avec leur logement en y restant dedans, avec
totalement.
Les problématiques que ça comporte, par exemple la promiscuité de l'espace.
Tout à fait.
Des chambres qui font 7 mètres carrés. Voilà, on a l'impression que l'espace est un luxe. Mais quelque chose que j'aime beaucoup dans ce que vous dites, et que je partage politiquement, je dis bien politiquement, hein, je le dis à dessein, c'est le droit inaliénable au logement. Alors on a un droit opposable au logement, on a le DAL, mais on parle de quelque chose qui est ancré même dans la Constitution, comme l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui donne un cadre à l'éducation, par exemple, qui est un droit universel. Le droit au toit, c'est important. Mais toit et loi, il faut aussi qu'il y ait loi, parce que c'est la loi qui définit le cadre structurel. Je voudrais qu'on revienne sur la mission d'Élan. Vous avez une méthode. Cette méthode d'accompagnement, aujourd'hui, elle est basée de façon très académique, sur un process qui a fait ses preuves aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, et surtout nous dire comment, dans le contexte d'aujourd'hui, vous arrivez encore à accompagner, puisqu'on est à la fois dans un contexte où il faut nécessairement aller vers la transformation environnementale, mais aussi dans un contexte dans lequel on a un impact économique tellement négatif qu'on est proche du renoncement pour certains. Voilà.
Tout à fait. En fait, on a la chance chez Élan d'avoir en propre l'ensemble des expertises environnementales. C'est-à-dire qu'au sein de mes équipes,
ah oui,
ouais, j'ai 12 écologues, j'ai plus de 20 thermiciens, j'ai une équipe dédiée à l'économie circulaire, une dédiée au carbone, une dédiée à la résilience, une dédiée aux certifications environnementales. Et en fait, c'est extrêmement précieux parce que ça nous permet d'avoir une vision holistique. Et quand vous parliez de méthode, pour moi, la méthode, elle est là. C'est-à-dire que le carbone sans la biodiversité, c'est un non-sens.
Ah, je suis d'accord. Ah, absolument.
Et donc, la base, c'est ce regard à 360 degrés.
Alors, on va expliquer, Sylvie, parce que
ouais,
c'est hyper intéressant ce que vous dites. Quand on vous dit, les amis, biodiversité, on va vous expliquer pourquoi c'est important d'allier les deux, la biodiversité.
Aujourd'hui, on va être très clair. Si demain, on tient nos objectifs de stratégie nationale bas carbone, mais qu'on n'a rien fait pour la biodiversité, on sera bien malin. Pardon, j'y vais très cash. À quoi cela nous servira d'avoir réussi ces objectifs en carbone si demain, on a détruit encore plus qu'aujourd'hui des dizaines, des centaines, des milliers d'espèces, et qu'on a une pauvreté au niveau de la faune et de la flore qui fera que de toute façon, nous, en tant qu'être humain, on aura des difficultés juste à vivre.
Prenons juste un exemple, la pollinisation.
Et bien sûr.
Les abeilles. Moi, je ne connaissais pas. Hein. Je vous le dis, je ne connaissais pas. J'ai étudié le sujet, j'ai vu pas mal de documentaires. On devrait élever une statue, une colonnade aux abeilles dans le monde entier, quoi.
Mais bien sûr.
C'est extraordinaire. On avait expliqué, vous savez, les catastrophistes avaient expliqué que la disparition des abeilles condamnerait les espèces et le monde végétal et animal sur un délai de 5 à 7 ans.
Tout à fait.
Tout disparaît. Une petite bébête comme celle-ci, qui finalement est un peu l'élément déclencheur. La biodiversité, c'est quoi ? C'est un équilibre subtil qui permet de mieux vivre et d'avoir un confort en ville comme dans l'habitat.
Tout à fait. C'est cette préservation de la faune et de la flore. Et la biodiversité, c'est lié à la biophilie. La biophilie, c'est le rapport de l'homme à la nature. L'un va avec l'autre. Et vous parliez des abeilles, mais est-ce que, par exemple, vous savez qu'en Australie, actuellement, il y a des tests qui sont faits en termes de médecine parce que le dard des abeilles permet des traitements efficaces de lutte contre les cancers du sein.
Oh, génial.
Donc, à un moment donné, quand on parle de biodiversité, bien sûr, c'est la préservation, mais en fait, la nature nous donne bien plus encore. Et donc, préserver la nature, c'est se préserver soi-même. Et du coup, j'en fais le lien sur nos
j'aime bien
fameuses
la vision
méthodes
philosophique, oui. Justement, ouais.
On s'acharne auprès de nos clients et on a des clients qui sont très réceptifs et je les salue parce que...
Et qui vous suivent. Hein.
Oui, et je trouve ça important de le dire aussi, de casser parfois un peu cette image des grands méchants que peuvent avoir les promoteurs, les aménageurs ou les investisseurs. On a des clients qui sont très à l'écoute de ce regard holistique et donc quand on travaille, effectivement, on cherche à avoir une vision systémique des projets. Bien évidemment, la première des démarches est de chercher à réduire notre empreinte carbone. On est bien d'accord, on vit, on émet. Donc à partir du moment où on vit, de toute façon, elle sera là. Mais aujourd'hui, on commence à avoir de sérieux moyens pour venir réduire cette empreinte carbone de manière extrêmement drastique. Et on s'acharne à compresser. Et à côté de ça, eh bien, on vient mettre de l'économie circulaire, ça aide. On vient mettre une approche sur la biodiversité et la biophilie. Et en plus de ça, ce n'est pas dénué de retombées économiques, parce que là aussi, vous avez des études qui montrent que l'homme, avec ce rapport à la nature, on a tellement besoin que, par exemple, dans l'hôtellerie, une chambre qui a une vue sur un parc ou qui a ce lien va se vendre à la nuitée bien plus cher qu'une vue sur le périph'. Ça semble évident à tout le monde.
Ah oui, c'est sûr.
Donc c'est du donnant-donnant. Et cette méthode holistique, ça nous permet d'accompagner le client et de dire, OK, quel arbitrage on fait au projet ? Quel est le bon arbitrage sur ce projet-là ? Qu'est-ce qui va générer des externalités ?
Est-ce que vous travaillez avec l'ensemble des acteurs du secteur ?
Oui, on travaille...
Le fait d'être filiale de Bouygues, ça ne gêne pas ?
On fait plus de 85% de notre chiffre d'affaires à l'externe du groupe. On travaille avec l'ensemble des promoteurs de la place, avec les investisseurs, avec les utilisateurs grands comptes. Donc non, on a plaisir à travailler avec tout le monde. C'est bien là la richesse de notre métier. Très clairement.
Moi, je vais vous dire, ce qui est la richesse, ce sont les hommes et les femmes qui la composent. Et je pense que vous êtes la parfaite illustration de cette richesse humaine, Sylvie Gamelin.
Un grand merci.
Parce que c'est un sujet que je connais bien, mais pas forcément avec expertise. Et j'ai compris tout ce que vous m'avez dit. Et ce qui est important, c'est que les gens s'engagent et adopte les paroles pour les transformer en actes. Même si le marché actuellement, pour être très clair, il est quand même sévèrement chahuté, et on espère du gouvernement des signaux alerte justement pour pouvoir relancer la crise de l'immobilier. On l'a parlé tout à l'heure, il y a un vrai sujet de logement en France, et il faut vraiment pouvoir le résoudre. On va donner l'adresse internet d'Élan. Pour vous avoir, on fait quoi ?
www.elan-france.com.
On peut avoir toutes les informations.
Tout à fait.
Et vous contacter directement si on a besoin, si on est un professionnel. L'essentiel de vos clients aujourd'hui, c'est quoi ? C'est les promoteurs ?
Promoteurs, investisseurs et utilisateurs grands comptes, bailleurs.
Grands investisseurs, ça peut être des foncières.
Oui,
voilà, des familles office qui investissent dans l'immobilier aussi. Voilà, tous les véhicules d'investissement, en fait, ont droit de citer chez Élan. Voilà. En plus, Élan, je ne sais pas si vous appelez déjà Élan avant que la loi Élan.
Tout à fait.
Mais donc, bien vu.
On s'appelle Élan depuis 1968, on était là avant.
Voilà, on parle beaucoup de vous en Amérique. Enfin bon, un petit jeu de mots très facile. Merci Sylvie Gamelin, je rappelle que vous êtes directrice générale d'Élan. Voilà, il est 12h20 passé. On va se retrouver dans quelques instants pour les autres émissions. On va faire aussi une petite pause. Je rappelle que Radio Immo est présente pendant l'ensemble du CIPCA aujourd'hui et demain, ainsi que vendredi. On finira vendredi 22. Moi, ce qui me concerne, tout à l'heure, je prends le train pour Metz et je vais vous retrouver, les amis, demain, toute la journée, pour animer les assises, la 5e édition des assises de l'immobilier à l'Arsenal de Metz. Restez connectés. On se retrouve tout à l'heure.
Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, du 20 au 22 septembre 2023 au Grand Palais éphémère à Paris sur Radio Immo et Radio Territoria.